Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Bonjour, c'est Valérie Tribe. Je suis très heureuse de vous accueillir dans mon podcast dans lequel on parle fringues, frites, sap, vêtements, vintage, élégance, fashion week, fast fashion, slow fashion. Allez, chiffon, c'est parti! Pour ce nouvel épisode de Chiffon, je vous invite au Canada avec une artiste peintre passionnée par la mode et l'art qui a réussi à allier les deux. Isor Beau-Dolomeni vit à Montréal et à l'occasion de son passage à Paris, elle est venue chiffonner avec moi et nous ouvre les portes d'Isor Atelier. Bonjour Isor!
Bonjour Valérie!
Alors tu vis au Canada, tu es née à Paris, tu es d'origine bretonne, hein, ça oui. On peut le dire. Pourquoi es-tu partie vivre au Canada ? Est-ce que tu peux nous raconter le début de ta vie ?
Bien sûr.
Ça fait 10 ans que tu es là-bas.
Ça fait 11 ans même. Je suis partie au Canada, à Montréal plus précisément. Je suis partie pour la première fois à Montréal en 2012 lors d'un stage. J'avais commencé une école de commerce à Paris. Et au sein de cette école de commerce, j'avais un stage à faire à l'étranger. Donc, je suis partie à Montréal à ce moment-là. Et j'y suis restée. J'ai arrêté mon école de commerce, je ne suis pas repartie en France pour plein de raisons, mais c'est vrai que la plus grande raison, c'est de voir un endroit, enfin découvrir un endroit et un pays où les, on va dire, un avenir professionnel différent et plus adapté aussi à ma personnalité.
Ouais, tu m'as dit que l'école française ne te convenait pas.
Exactement. J'ai jamais été très scolaire, je me suis beaucoup ennuyée, j'ai jamais été très bonne à l'école, j'aimais pas ça. J'avais besoin d'apprendre autrement, donc apprendre en faisant, apprendre en rencontrant des gens ou apprendre en posant des questions, en ayant par intérêt pur. Et c'est vrai que j'ai été scolarisée dans un pensionnat où très vite, je fais partie d'une génération où il fallait faire des filières générales parce que c'est celles qui ont des débouchés. Donc, par peur justement de ne pas trouver le débouché qu'il me fallait, j'ai choisi une voie un peu plus générale et business qui me correspondait pas du tout.
Donc, t'es une artiste dans l'âme, hein, donc c'est vrai que j'ai du mal à t'imaginer en businesswoman. Mais avant, quand même, t'as commencé ta carrière en agence de pub.
Exactement.
Qu'est-ce que tu faisais donc ?
Exactement, j'ai commencé dans le média, agence média, où j'étais stratège. Et j'ai évolué après, j'ai fait 8 ans de carrière en pub et en production vidéo. Donc après, j'ai bougé tranquillement vers la prod jusqu'à devenir productrice de vidéos, principalement publicitaires et documentaires.
Et Isor Atelier est né en 2020.
Exactement.
Alors, je te cite parce que, alors, on a préparé, il faut savoir qu'il faut tout vous dire, hein, on a préparé cette émission à distance.
Oui,
donc
ouais.
Tu m'as quand même écrit. Tu m'as dit que donc cette aventure a commencé de façon inattendue. Alors là, moi, j'ai hâte. Tu n'as pas voulu m'en dire plus.
Exactement. Je voulais garder la surprise pour aujourd'hui. C'est en 2020.
Covid. Année Covid.
Covid. Exactement.
Au Canada, vous avez été confiné assez longtemps en plus.
Exactement. Ça a été, les règles étaient beaucoup plus strictes. Donc, un peu, je pense, pour l'ensemble des pays anglo-saxons du Commonwealth, c'était effectivement très, très rude. Et donc, le Canada avait des règles effectivement strictes. Et je suis tombée enceinte de ma fille. Et parallèlement, j'ai arrêté de travailler. Je gérais une filiale et je ne me voyais pas du tout continuer à en assurer, en assumer les fonctions et tous les stress qu'elle avait avec, d'autant plus que c'était en plein Covid. Et en plus de ça, le confinement. Donc, je me suis retrouvée à être inoccupée, enceinte, donc pas forcément le meilleur moment pour retrouver un emploi, et confinée. Donc, et aussi avec l'hiver qui arrivait.
Ah oui, c'est vrai que l'hiver là-bas...
voilà. Et en fait, je me suis dit, il faut vraiment que je m'occupe. Je n'avais pas forcément un projet entrepreneurial, même pas du tout. J'avais vraiment envie de faire quelque chose pour moi. Et traînait chez moi une toile que j'avais achetée pour faire une toile pour la maison. Et en fait, J'avais fait quelque chose de très vite fait, bien fait, en jetant de la peinture, en voulant faire quelque chose de très abstrait. C'était horrible. Ça avait séché. Je m'étais dit, il faut que je la reprenne. Et là, je vais reprendre, je vais bien la reprendre et je vais prendre ce temps pour pouvoir bien la faire. Et donc, j'ai commencé à repeindre dessus et je me suis dit, qu'est-ce que je pourrais faire, quelque chose qui me parle. Et je me suis inspirée d'un artiste qui s'appelle David Hockney, qui est un artiste britannique et qui fait souvent des tableaux très colorés, très joyeux. Et je trouvais que ça me correspondait. Et à côté de ça, j'avais envie, dans mes tableaux, pas forcément faire que des paysages. Et j'avais envie d'aussi peindre des femmes parce que j'ai toujours été très sensible aux femmes, aux formes. Et voilà, donc j'ai fait cette première toile-là d'une femme qui saute dans une piscine. Et c'est en la postant sur Instagram que des amis me disent « Isor, j'adore, $200, on te l'achète ».
Et c'est parti comme ça.
Et ça a commencé comme ça.
Alors, tu t'es spécialisée dans la peinture acrylique.
Exactement.
Tu peins sur de la toile, du bois et des tissus, parce que tu fais aussi des foulards. Oui. D'où vient cette... Donc, mais tu l'avais, cette fibre artistique, quelque part.
Tout à fait. En fait, j'ai une grand-mère, ma grand-mère paternelle, qui était artiste, donc artiste peintre et céramiste. Donc, lors de mes passages l'été chez elle ou en vacances, elle nous apprenait beaucoup les techniques. Et parallèlement à ça, c'est vrai que j'ai grandi dans une famille nombreuse, sans la télé. Donc en fait avec des parents qui nous ont beaucoup poussé à s'occuper d'une autre manière en faisant beaucoup d'activités manuelles, de la couture, du dessin, de la peinture. Et donc en fait c'est vrai que est née une fibre créative, je pense, et artistique de ces deux façons là.
Alors là tu es de passage à Paris, vous écoutez ce podcast, malheureusement l'événement sera fini, mais tu es de passage à Paris parce que tu vas faire une performance à la Samaritaine.
Exactement.
Où tu vas peindre une toile en public.
Oui, exactement, la Samaritaine dans le cadre de leur thématique Paris Trompe-l'œil, m'ont convié à venir justement peindre une toile en live, près justement de mon emplacement où il y a mes foulards, j'y reviendrai après. Et je vais faire ça du coup vendredi et samedi, voilà, première grande...
Alors, je suis vraiment imprégnée de ton univers, j'ai regardé, c'est vrai que j'ai remarqué que les femmes que tu peins sont souvent corpulentes, très rondes.
Ouais.
Pourquoi ?
Parce que je trouve que les rondeurs inspirent quelque chose de très joyeux et positif. Et c'est quelque chose qui ressemble beaucoup aussi à ma personnalité. On est dans une société à l'heure actuelle où beaucoup de choses sont tristes, nous amènent à déprimer, le niveau d'anxiété est énorme. Et c'est vrai que à travers ces peintures-là, j'ai envie de transmettre quelque chose de positif et joyeux. Ça passe aussi par les rondeurs. Ça passe aussi par les couleurs.
Et les couleurs, ce que j'allais dire, parce que tes foulards de soie sont absolument magnifiques et surtout ultra colorés.
Oui, ouais, tout à fait. Très colorés et je trouve que moi, c'est quelque chose, encore une fois, qui me correspond. La couleur, ça apporte une touche joyeuse à quelque chose de terne. Alors, je réinvente pas la roue en disant ça, mais c'est vrai que la couleur n'est pas forcément que portée en été, n'est pas que pour l'été, ça peut être aussi porté l'hiver. Et je trouve que par les foulards, justement, c'est ce petit accessoire.
On peut relever une tenue très simple, très sobre, foncée, avec un foulard. Ouais. C'est un peu ce que je pratique. tu dis que tu mêles art et fashion. Enfin, art and fashion, qu'entends-tu par là?
Alors, je dirais que le côté fashion, mode, etc., a un côté assez universel. L'art a un côté assez exclusif et personnel. C'est très subjectif, c'est très... on essaie de se l'approprier. Et ce côté exclusif, j'ai l'impression qu'on a de plus en plus envie de ça. Et c'est vrai que moi, étant une fan de mode et à côté de ça, une artiste, je me suis dit... Pourquoi pas allier les deux en apportant cette exclusivité et ce côté peut-être un peu plus authentique dans un milieu qui aujourd'hui est quand même très vaste, très concurrentiel. On voit énormément de marques, énormément de choses. Et c'est vrai que c'est très difficile aussi de se réinventer.
Et de se démarquer aussi.
Et donc de se démarquer, effectivement.
Mais chaque foulard est unique, tu fais des pièces uniques ?
Non, je ne fais pas des pièces uniques, mais je souhaite en faire des petites quantités. Je ne fais pas de B2C, je ne vends qu'avec des grands magasins, un grand magasin pour le moment.
On peut le dire, on peut le citer, la Samaritaine.
Oui, la Samaritaine, exactement. Et ce qui est important, c'est que je ne veux surtout pas être considérée comme une marque de foulard comme une autre, parce que je ne suis pas la seule à en faire des foulards, mais plus comme le travail d'une artiste sur des carrés de soie. Et ça, je pense, c'est aussi ce qui plaît, de se dire qu'il y a une artiste derrière, il y a une histoire derrière, et ce n'est pas un simple graphisme par une graphiste. Voilà.
Okay. Et toi, alors, quel est ton style ?
Quel est mon style ? Je dirais que je jongle entre deux styles. J'ai un côté assez extravagant, coloré. J'aime beaucoup les patterns et j'aime beaucoup les couleurs et voilà, peu importe la saison. Et j'ai un côté aussi qui aime les pièces un peu plus intemporelles et formelles. Donc, par exemple, une chemise blanche, un bon jean. Et c'est vrai que parfois, j'aime mixer les deux. Un peu comme
là, tu peux te décrire.
Alors, à l'heure actuelle, donc, je porte un kimono brodé à la main qui nous vient tout droit de Turquie, assez coloré.
Très coloré.
Mais
tu as associé ça à
une tenue qui est, pour le coup, très basique et classique. Mmh. Donc, j'ai un t-shirt blanc. J'ai un pantalon bleu marine, Maison Margiela, que j'ai trouvé en seconde main, que j'adore. Et une paire de mocassins...
Chiasse basse.
Exactement.
Chez les mêmes.
Noir et blanche.
Ouais. Alors, moi, j'ai une question. Hein. Comment on fait pour rester élégant quand il fait moins 30 ?
On ne fait pas. Non, si. Écoute, c'est pas facile. C'est pas facile, mais... Et mes amis à m'entendre vont sourire. J'ai toujours dit le style avant tout. Et c'est vrai que ça a été toujours un petit running gag. J'aime rester stylée, peu importe l'environnement et la météo, etc. Et c'est vrai que ce n'est pas évident, parce qu'il faut faire preuve de créativité. Par contre, c'est possible. C'est possible en essayant de trouver des pièces qui se prêtent à la météo, mais ou un assemblage de pièces qui vont faire en sorte qu'il y a quand même.
Mais quand il y a une tempête de neige, par exemple.
Et quand il y a une tempête de neige, eh ben moi, je préfère souffrir mais être belle.
Ah, ça veut dire... T'es la deuxième à me le dire en une semaine là. Oui, oui.
Souffrir être belle, ça veut dire par là que je n'ai jamais eu de bottes de neige, par exemple. On va dire que ma paire la plus commune pour des météos assez lourdes, c'est une paire de Converse. Donc c'est sûr que quand il fait moins 30...
Mais t'as les pieds congelés.
Alors, je mets des chaussettes en laine ou en cachemire. Ceci étant dit, je ne suis pas une fan de plein air. Donc je ne veux pas non plus faire de la rando avec. Mmh. Je suis très citadine. Donc c'est vrai que souvent, c'est pour passer d'un point A à un point B assez rapidement. Et ça se fait. Ceci étant dit, j'ai déjà porté des talons dans la neige. Je ne le referai pas. Mais c'est vrai que non, ce n'est pas toujours évident.
Alors justement, quelle est la différence au niveau de la mode entre Montréal et Paris ?
Alors Montréal, pour vous mettre en contexte par rapport à la mode dans les deux villes, c'est vrai que je vis dans une ville qui est réputée pour être l'endroit de tous les possibles niveaux style. Donc c'est-à-dire qu'on passe aussi bien d'un style extrêmement décalé et déjanté à un non-style. Il y a vraiment deux extrêmes.
Les Canadiens n'ont pas tous des chemises de bûcheron, c'est ça ?
Non, absolument pas. Il y a vraiment de tout et parfois même des belles surprises. Et c'est vrai que je me suis rendu compte que on entendait souvent Montréal a un côté très avant-gardiste sur la mode, etc. Alors c'est vrai que j'avais du mal à le croire, surtout en venant de Paris. Et c'est vrai que j'ai réalisé que ce côté avant-gardiste concernait plutôt la génération 18-25 ans, surtout sur des tendances très street style, casual, qui sont arrivées ensuite en Europe. C'est par contre, moi me concernant, et je vois beaucoup d'amies françaises donc dans la trentaine, c'est vrai que pour le coup là-bas, c'est impossible de s'habiller comme on aimerait.
Comment tu fais, toi, pour choper ?
À la France, mais en fait, je remplis mes placards quand j'ai en France,
tout simplement. C'est quand tu viens en France.
Ouais. Et c'est ce que fait, c'est ce que font beaucoup de mes amis, parce qu'en fait, là-bas, l'offre proposée est vraiment très, très différente de l'offre proposée en France. Elle est même quasi nulle par rapport à la France, dans le sens où soit ce sont des grandes chaînes de magasins, mais qui sont plutôt
des enseignes de fast fashion, j'imagine.
Des enseignes de fast fashion, exactement. Soit ce sont des enseignes locales dont l'offre n'est pas très attrayante, ou soit c'est de l'ultra-luxe. Donc c'est vrai que pour le coup, moi je remplis mes placards quand je passe en France ou quand je voyage, Et c'est vrai que pour le coup, quand je suis en France, je me lâche, je me prends un peu plus la tête.
Tu t'habilles différemment ?
Oui, alors qu'à Paris, pour le coup, c'est vrai qu'au niveau de la mode, c'est incontestablement une ville où la mode est très présente, où il y a le choix, mais le choix en termes d'offres, le choix en termes aussi de style.
Tu trouves que la parisienne est ultra stylée ?
Ah oui, complètement. Et pour moi, il n'y a pas qu'une parisienne, les parisiennes. Il y a plusieurs styles.
Donc, le mythe de la parisienne, c'est le mythe des parisiennes.
Exactement. Et moi, je suis fascinée par les différents styles qu'on voit à Paris, par les femmes qui osent. Beaucoup aiment oser ici.
Et à Montréal aussi, non ?
Oui, mais je dirais que ça ose... Alors, tu me poses une colle. Ça ose différemment, mais je ne sais pas comment.
À Londres ?
Oui, voilà. Ça ose, c'est très... On va pousser, on va dans l'extravagance, on va dans l'extrême. Ça ose dans l'extrême. En France et à Paris, je trouve que la parisienne, la française, elle ose, mais avec élégance. Est-ce que tu vois la différence ?
Oui, je comprends. Tu vois ? J'imagine que tu as des amies canadiennes. Qu'est-ce qu'elles te disent sur les parisiennes ?
Mais on a cette réputation-là.
Ouais.
On a cette réputation-là et c'est vrai que les Canadiennes, elles préfèrent le confort. Mmh. On s'habille pour le confort. On s'habille parce que c'est un besoin primaire. Mmh. Mais il faut avant tout être confortable. Et pour elles, c'est vrai que les Parisiennes, c'est ça ose, ça met des styles absolument fantastiques, mais pas forcément confortables ou pas forcément... voilà.
Tu disais que tu as eu une éducation un peu à l'art. Est-ce que tu as eu une éducation à la mode ?
J'ai une éducation à la mode, oui. Mais pas forcément une éducation à la mode de grandes marques prestigieuses. Mmh. J'ai une maman qui a toujours aimé justement oser, qui a toujours été assez extravagante dans ses styles. Et je pense que j'ai tenu ça d'elle. Mes sœurs aussi aiment ça, aiment oser. Et je pense qu'elle m'a bien transmis cet amour pour le style et le bon goût.
Est-ce que tu suis les tendances ?
Pas tellement. Alors, c'est sûr que la tendance, parfois, va m'amener à considérer ou à acheter un vêtement pour lequel je n'avais pas forcément pensé. Mm-hmm. Par exemple, récemment, c'était une paire de sabots. Mm-hmm. Enfin, récemment, la dernière année, je me suis acheté des sabots. Je n'avais pas forcément pensé à m'acheter des sabots. Donc, la tendance a fait que je me suis dit, ah, tiens, ça peut être super cool.
Et tu l'as vu où ? Sur Instagram ?
J'ai vu sur Instagram, exactement. Et en fait, cette tendance-là, je me suis dit, tiens, c'est cool, c'est quelque chose de tendance, j'ai envie de me l'acheter. Par contre, mon style n'est pas en fonction de la tendance. Je vais le matcher avec mon style personnel. Ouais.
Tu ne suis pas intégralement les Fashion Week, tu ne dis pas, tiens, ça c'est très à la mode, pas forcément les Fashion Week, mais ça c'est très à la mode, je le veux.
Pour des pièces, oui, mais pour la combinaison de ces pièces-là, sur mon style, non, absolument.
Tout ce qui est hit bag, hit shoes, tout ça, ça te...
Pas tellement. Ouais, tu vois, par exemple, les grosses baskets de certaines marques qui ont été à la mode récemment, tu sais, je pense à Balenciaga, etc. Moi, c'est pas du tout mon style, je trouve ça assez grossier. Et donc, par tendance et par mode, je suis pas allée vers cette voie-là.
Quel est l'ADN de ta garde-robe ?
L'ADN de ma garde-robe, très mixé. On y trouve un peu de tout. C'est vrai que pour le coup, plus je vieillis, mais j'aime pas dire ça parce que ça.
C'est encore très jeune.
J'ai encore jeune. Mais c'est vrai que j'ai envie de. J'aime beaucoup les belles pièces. Je préfère m'acheter moins de vêtements, mais d'acheter des belles pièces. J'aime beaucoup chiner. Donc quand je dis des belles pièces, souvent c'est des pièces de créateurs. Et en chinant, c'est trouver ces pièces-là en seconde main. Que ce soit dans des friperies, que ce soit dans des dépôts ventes de luxe.
J'ai entendu dire qu'il y avait beaucoup de friperies à Montréal.
Exactement, il y en a énormément. Et il y a des friperies aussi en fait de luxe, des dépôts ventes de luxe. Et moi, c'est ce que j'adore parce qu'on trouve des pièces absolument incroyables, comme ce pantalon. Marcella, pour vraiment le prix d'un pantalon d'une marque chez Cézanne, par exemple. Donc, c'est vrai que j'aime beaucoup faire ça. Ouais.
Est-ce que tu t'habilles différemment depuis que tu as créé Isor Atelier ? Ton âme d'artiste a explosé, on va dire. Est-ce que du coup, ça a changé ta façon de t'habiller ?
Pas tellement, parce que j'ai toujours osé. J'ai toujours aimé porter des pièces qui me faisaient plaisir, parfois un peu extravagantes. C'est sûr que là, avec mon kimono, je me balle dans la rue. Alors à Montréal, on ne fait que de m'arrêter, parce que pour eux, c'est peut-être moins habituel. Mais
on t'arrête quand même.
Ouais, on m'arrête. Mmh. On m'arrête. Là, ce matin, on m'a arrêtée en venant ici à Paris. J'adore. C'est magnifique. Ce qui est un peu plus, on va dire, moins commun à Paris. Voilà. Donc je vais faire. Je vais porter quelque chose qui me plaît. Et voilà. Là, je me perds.
Quel est le vêtement qui te rend forte ?
Le vêtement qui me rend forte, c'est mon sac à main.
Donc, c'est un accessoire.
C'est un accessoire. Et le vêtement, c'est une chemise.
Une chemise ?
Ouais.
Et si tu as un rendez-vous méga important, tu sors les talons ou pas ? Ah, parce que tu mets des talons dans la neige, donc j'imagine.
Oui, en fait, les talons n'est pas forcément synonyme pour moi ne s'associe pas forcément à l'importance d'un événement. Par exemple, te rencontrer aujourd'hui était quand même important pour moi. J'ai mis une paire de mocassins parce que ça reste pour moi aussi habillé que des talons. Oui, pour les événements, je vais m'apprêter, je vais me prendre un peu plus la tête que d'habitude, alors qu'habituellement, je me lève, je me sers dans ma garde-robe, je m'habille sans trop me poser de questions. Voilà.
Quel est le vêtement que tu ne porteras jamais ?
Il y a deux vêtements que je porterai jamais.
Deux.
Les collants chers et les slims.
Ah ouais, on a un point commun, effectivement.
Ah ouais, jamais. Les slims, non.
Ça devrait être, on est d'accord, ça devrait être banni.
Ça devrait être banni.
Mode.
Par contre, j'admets, j'en ai porté durant la période.
Tu as osé.
Quand j'ai osé en porter dans la période où ça s'est arrivé. Exactement, la période Kate Moss. À l'époque, on adorait, même quand les garçons en portaient, les slims avec, ce que je me souviens, les chaussures à pointu qu'on appelait les schmoves. Quelle horreur. Donc oui, j'en ai porté. Mais en fait, parce que là, pour le coup, j'avais suivi une tendance. Et puis, c'était à l'époque où, effectivement, l'adolescence, on est un peu plus fine. Donc, à la limite, ça passe. Mais maintenant, plus jamais.
Tu me parles beaucoup. Tu as prononcé plusieurs fois le mot « oser ». Quel conseil donnerais-tu à une femme qui n'ose pas ? Qui n'oserait pas, par exemple, sortir avec ce magnifique kimono que tu portes ?
Eh bien, la première chose, c'est de se poser la question de qu'est-ce qu'elle a à perdre ? Qu'est-ce qu'elle a à perdre, en fait ?
Le ridicule,
si elle ne fait pas, le ridicule.
La peur du ridicule.
La peur du ridicule, mais finalement, pourquoi ? Parce que, je veux dire, les interactions dans la rue sont assez éphémères. Donc finalement, je pense qu'elle a plus à y gagner de faire quelque chose pour elle, qui reste ancrée en disant « j'ai osé », voilà.
Et le regard des autres ?
Moi, je m'en fous complètement. Et je pense qu'il faut s'en défaire. Je pense que si on est esclave du regard des autres, justement, on va pas oser. Justement, on va faire en fonction des gens. On va être, on va être plus esclave des autres. Et ça, je trouve ça vraiment triste.
Ton rapport à l'accessoire, donc tu me disais que c'est le sac à main, mais ouais. Tout ce qui est bijoux, barrettes,
Le foulard.
D'ailleurs, pourquoi le foulard ?
En fait, j'aime bien en avoir un de temps en temps. Pas tout le temps. Parce que je trouve que c'est un accessoire qui, en général, peut habiller une tenue. Il peut être porté de plein de façons différentes. Dépendamment aussi de la tenue. Parce que c'est sûr que c'est une tenue un peu plus classique.
D'ailleurs, j'encourage les gens à aller voir ton Instagram. Je sais pas si c'est ton Instagram. J'ai vu des photos où tu le mets sur la tête, tu mets des lunettes de soleil par-dessus.
Ouais. Exactement. Parce que, justement, il y a plusieurs raisons. Le foulard, aujourd'hui, est un accessoire très intemporel, mais aussi très connoté BCBG. Et c'est vrai qu'il a souvent été connoté comme ça. Et,
en foulard de soie, surtout.
Les foulards de soie, exactement. Et c'est vrai qu'à travers mes graphismes, j'ai voulu un peu lui donner un souffle un peu plus moderne, un peu plus accessible aussi à plein de différents styles. Justement à les femmes qui étaient très chics et qui le sont. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que le foulard a cette capacité à pouvoir être porté de plein de façons différentes. Et c'est vrai, on l'a vu les dernières années, beaucoup de marques ont fait des foulards. Ça a enlevé ce côté peut-être un peu moins BCBG, mais parce qu'on pouvait le porter dans les cheveux l'été, on pouvait le porter en ceinture, etc. Ceci étant dit, moi, dans mon cas, beaucoup de marques de foulards, justement, vont définir un peu comment on porte un foulard, vont créer du contenu autour de ça. Et moi, je trouve que pour le coup, c'est un peu vu et revu. Les gens savent comment porter le foulard. Je ne vais pas leur apprendre une nouvelle manière de le porter. Et donc, moi, j'ai envie de prendre plus la voie décalée parce que je pense qu'elle me correspond aussi. En fait, le foulard, on sait comment il peut se porter. Mmh. Maintenant, c'est comment moi je peux le mettre en avant sur mon compte, sur mes réseaux sociaux, et comment je peux le démocratiser, lui apporter un peu cette.
Et toi, comment tu le portes le plus souvent ?
Et moi, comment je le porte plus souvent ? J'aimerais le porter plus souvent sur la tête, mais je ne sais pas pourquoi il glisse. Ma tête est petite.
Alors, il y a des techniques, hein. Il y a des techniques avec des barrettes.
Ouais, tu sais, exactement. Et sinon, j'aime bien le porter souvent autour du cou, même si, en fait, un peu en foulard type cow-boy, j'aime bien. Je trouve que ça habille ma tenue, c'est un petit cache-cou. C'est classique comme manière de porter.
Et puis c'est chaud vivant au Canada.
Mais voilà, c'est chaud vivant au Canada, exactement.
As-tu une icône de mode ?
Une icône de mode. Alors, il y a une femme, effectivement, que j'aime beaucoup, que tu connais, qui est Mara de la Horden. Mm-hmm. Effectivement, pour moi, c'est une icône de mode. C'est pas forcément mon style. Mais ce que j'adore chez elle et dans son univers, déjà, elle ose énormément. Elle ose quand même un style qui est très connoté. Mm-hmm. Et qui est aussi un style très... Moi, ma maman s'habillait aussi un peu comme ça. Mm-hmm. Donc, il peut paraître aussi un peu old school.
Très classique et old
school. Très classique. Mmh. Mais elle a réussi, je trouve, à en faire quelque chose de moderne, sans faire quelque chose de tendance, avec beaucoup de goût. Et en fait, à créer aussi son univers, son ADN, et à vraiment créer quelque chose de neuf. Je trouve qu'on voit énormément de marques. On a énormément de choix.
Et justement, toi, t'as un œil extérieur, donc voilà, d'autant exactement. Plus intéressant.
Et c'est vrai que je trouve que certaines marques en France, elles ne se différencient pas d'une marque, ça ne se différencie pas d'une marque à une autre. Mara de la Rondaine, tout son univers, que ce soit la veste, Mara de la Rondaine, etc., en fait, il se différencie. On sait que c'est elle.
Même les pièces.
Exactement. Les collerettes.
Et elle commence à être copiée, d'ailleurs.
Et elle commence à être copiée. Et c'est ça qui est trop dommage. Mmh. Elle a créé quelque chose qui est très atypique. Donc oui, moi, j'aime beaucoup ce que fait cette femme et tout l'univers qu'elle a créé autour.
Ce que tu disais sur les marques, notamment parisiennes, il y a une certaine uniformisation de la mode, mais je pense que c'est dû aussi à Instagram.
Ouais.
Parce que tu regardes maintenant sur Instagram, tu as le feed.
Et c'est en fait même le feed... de mettre une photo Cézanne, Bache, sans mettre la marque.
On ne sait pas
qui c'est.
Où puisses-tu ton inspiration, justement, parler d'Instagram ? Est-ce que tu regardes sur Instagram ou t'adores ? Alors, surtout quand tu es à Paris, j'imagine que là, tu dois faire le plein d'inspiration. Tu te mets, tu t'assois en terrasse et tu mates.
Ouais, alors ça, j'adore. Effectivement, c'est prendre un petit café en terrasse et mater. C'est vrai que l'inspiration, je la prends en regardant les gens par des rencontres, un peu sur Instagram aussi, par les voyages. C'est tout bête, tu vois, mais d'aller parfois au Mexique, de voir des pièces portées ou une façon de faire au niveau du textile, ça me donne envie de me dire tiens, c'est vachement sympa. Ou au Portugal, j'ai vu qu'ils faisaient quand j'étais allée, des sacs en raffia spécial pour porter des bouteilles de vin. Canon comme sac à main. Donc en fait, oui, ça c'est des petites pièces.
Tout t'inspire.
Tout m'inspire, ouais.
Quelle est ta définition de l'élégance ?
Ma définition de l'élégance, je pense que c'est ce que dégage la personne avant tout en termes de personnalité. Je pense qu'une personne peut être habillée avec le style qui lui convient. Si elle a une certaine prestance, un certain charisme, pour moi, on peut retrouver l'élégance chez cette personne.
Donc, c'est pas lié aux fringues.
C'est pas forcément lié aux fringues, bien que évidemment, une femme comme Maria de la Horden est extrêmement élégante, et je ne dirais pas forcément la même chose d'un style un peu plus déjanté, londonien ou peut-être montréalais. Donc non, oui, t'as raison, l'élégance a un côté plus je sais pas comment le verbaliser, mais il y a quelque chose de plus
inné, peut-être
quelque chose de plus inné, ouais, plus inné.
Dans le comportement, dans la façon de se tenir, la façon de parler, la façon de bouger.
Ouais. En fait, pour moi, c'est vraiment un ensemble de choses. Mmh. L'élégance, ça passe aussi bien par les vêtements que par, effectivement, toute l'attitude qui va avec. Mmh. La prestance, le savoir-vivre, voilà, c'est le savoir-être. C'est tous ces éléments-là mis ensemble, le bon goût, mmh, forme l'élégance.
Qu'est-ce que le bon goût ? C'est terriblement subjectif.
C'est extrêmement subjectif. C'est extrêmement subjectif et donc ça serait difficile d'aller vous convaincre et vous dire ce qu'est le bon goût. Moi, ma définition du bon goût, elle est le bon goût, c'est pas le too much, ça reste le raffiné. C'est le côté discret, mais qui impacte d'une certaine manière. Mm-hmm. Par exemple, pour moi, la définition du bon goût va être plus se tourner vers une femme comme Marie de la Ardenne, qui je pense a du bon goût, ou Léa Sfez, par exemple, mm-hmm, qui a un très très bon goût.
Qui a un look complet opposé de celui de Marie de la Ardenne.
Et que j'adore. Et je pense qu'il y a un look peut-être plus similaire au mien, mm-hmm, sur certaines pièces. Mais qui a de bon goût d'un point de vue décoration, objet de design. Donc voilà, alors que pour moi, l'inverse de ce bon goût-là, ça va être ce qu'on voit par exemple sur les influenceuses à Dubaï, les logos partout.
Oui, c'est too much.
Le côté too much, très. Ouais, ça, je déteste.
Ben, merci infiniment, chère Isor.
Merci.
Alors, nous, on va se revoir, oui, à Montréal. Et là, pour le coup, je vais vous montrer l'univers d'Isor à Montréal et tu nous feras aussi une petite visite de la ville.
Parfait.
Et tu nous montreras les endroits sympas, parce que je suis sûre qu'il y a des endroits sympas où on peut choper de très,
très cool,
belles choses.
Ouais.
Ben, rendez-vous à Montréal.
Merci Valérie.
Merci
à,
merci à vous, chers auditeurs. Et n'oubliez pas, en attendant, ne vous prenez pas la tête avec vos fringues. Merci à toutes et tous pour votre écoute et votre fidélité. Passez une bonne semaine, portez-vous bien et don't worry, tout ira très bien.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.